Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Amo Ite Utua, Porter sa peine, La prison en Polynésie française de Marie Salone et Jacques Vernaudon, avec la collaboration de Miroz Paya, publié par les éditions Au vent des îles, lu par Mylène Raveino. Certains indicateurs de la situation des prisons en Polynésie française étonnent les observateurs extérieurs. Toutes choses égales par ailleurs, et à considérer le profil socio-démographique des détenus, la nature de leurs infractions et les conditions de détention très dégradées qui étaient celles du centre pénitentiaire de Nuutania avant l'ouverture du centre de Tatutu Papeari, la détention se passe bien, les détenus portent leur peine dignement, le climat est apaisé. Comment expliquer ce constat qui semble largement partagé ? Pour répondre à cette question, ce premier chapitre va se pencher sur ce qui fait la spécificité des relations carcérales en Polynésie française, telle qu'elle est exprimée par ceux qu'elles impliquent, les personnels de l'administration pénitentiaire et les détenus. Il faut commencer par noter que le constat n'est pas nouveau. Un article du quotidien local La Dépêche, publié le 27 janvier 1978, 12 jours après une mutinerie à la prison de Nuutania qui fera 2 morts et une 20aine de blessés, rappelle ainsi les propos tenus à la télévision par le docteur Solange Troisier, médecin inspecteur général de l'administration pénitentiaire, lui reprochant d'avoir décrit la prison comme un vrai « paradis » à l'occasion de sa visite à Tahiti en septembre 1977, 4 mois seulement avant le drame. Les agents de surveillance et le personnel administratif, 66 agents pour 187 détenus, forment une excellente équipe. Ce personnel m'a beaucoup séduite. Il est fin, cultivé, distingué. Ils m'ont accueilli avec infiniment de gentillesse, me faisant participer à la vie de la prison, comme rarement cela m'est arrivé en France. Un dialogue s'est vite établi entre les prisonniers et moi-même. Ceux-ci se considèrent comme pécheurs, se jugeant avec beaucoup de sévérité, disant que la rédemption de l'administration pénitentiaire, ainsi que les surveillants, doivent les empêcher d'être des pécheurs. Les détenus m'ont souhaité la bienvenue, disant que j'étais leur mère à tous et que je représentais la France. Il existe une bonne harmonie entre surveillants et détenus, la vie carcérale se passe bien. On ne peut qu'être frappé par le parallèle entre ces impressions de 1977 et celles du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, 40 ans plus tard, lors de l'inauguration du centre de détention de Tatutu Papeari, lui aussi, apparemment tombé sous le charme, puisqu'évoquant une précédente visite du centre pénitentiaire de Nuutania en ces termes. Je m'attendais à voir quelque chose qui était le résultat de cette surpopulation et j'avais découvert de rares moments d'humanité. J'avais découvert une qualité de vie, de respect entre les détenus et les surveillants. J'avais vu la manière dont les personnels se comportaient au quotidien, la façon dont ils exerçaient leur activité avec honneur. La convergence des constats faits par les observateurs extérieurs et leur permanence dans le temps laisse le sentiment que les événements concrets, la réalité de la prison et de ce qui s'y passe, ainsi les propos en pratique ont finalement peu d'incidence sur la manière dont elle est vue. De manière symptomatique, 6 mois après la mutinerie de janvier 1978, le secrétaire général de la Polynésie française, Jean-René Garnier, écrivait dans un télégramme au ministère des Outre-mer, en réponse à une demande du garde des Sceaux d'être informé sur les aspects particuliers de la population et de la vie pénitentiaire par comparaison avec celle de la métropole. Détenus plus disciplinés, plus respectueux qu'en métropole, plus grande culpabilisation, grande solidarité, milieu familial, influence de l'Église. Autant de caractérisations des spécificités locales qui sont de facto reprises par les observateurs extérieurs jusqu'à aujourd'hui, sans jamais être véritablement interrogés. La pérennité des idées qui circulent en métropole sur la détention en Polynésie française ferait presque passer la mutinerie de 1978 pour un épiphénomène, une sorte d'incident de parcours qui ne remettrait pas fondamentalement en cause une détention qui se passe bien. Un événement certes dramatique, mais qui n'aurait pas infléchi les cadres d'appréhension de la réalité carcérale. Voici comment un inspecteur général des services pénitentiaires entend à l'époque minimiser la portée des faits. Mis à part une période de quelques mois pendant laquelle des détenus particulièrement dangereux, auteurs de la mutinerie du 14 janvier 1978, indépendantistes, incarcérés à Nutania, ont créé une agitation quasi permanente pour amener l'ensemble de la population pénale à se révolter, on peut dire que les détenus sont plus calmes, plus disciplinés et plus respectueux de l'ordre établi qu'en métropole. Or, notre enquête auprès des personnels pénitentiaires réalisée en 2019 a montré que, localement, cet événement a constitué un véritable traumatisme pour la profession, en ce qu'il a brutalement mis au jour la potentialité de la violence physique, la détermination de certains détenus, leur capacité à s'organiser. Au-delà des commémorations régulières de l'événement à travers les très officiels dépôts de gerbes sur la stèle à la mémoire de l'agent assassiné, sise au centre pénitentiaire de Nutania, il a constitué une rupture importante, en ce qu'il a révélé également que cette violence était imputable non à un coup de folie soudain, mais bien à des motivations politiques plus profondes. Il faut dire que les causes de la mutinerie ont été largement commentées à l'époque. Certains y ont vu un règlement de compte entre gardiens et détenus, la concubine du surveillant décédé ayant déclaré que son amant avait administré une correction à l'un des mutins au retour de celui-ci de son évasion et que ce dernier avait juré de se venger. On trouve la trace dans les archives de missions punitives menées par les collègues du surveillant assassiné contre les insurgés mis au cachot dans les jours qui ont suivi la mutinerie. Une semaine après le drame, un surveillant demandera sa mutation, évoquant sa crainte que le souvenir de la façon dont son camarade Pierre Hoatua fut massacré par les prisonniers révoltés le 14 janvier ne le pousse un jour à commettre envers ses meurtriers des actes irréparables. Une des premières revendications du syndicat des personnels, le syndicat autonome du personnel et de l'administration pénitentiaire de Polynésie française, sera alors de demander un port d'armes comme la gendarmerie, car un surveillant est aussi bien en danger chez lui que pendant le service. Vengeance de détenus évadés ou libérés. D'autres commentateurs évoquent un laxisme dans les conditions de détention qui, entre l'absence d'isolement des détenus particulièrement surveillés, les possibilités qui leur étaient offertes de se réunir pour comploter, notamment pendant les exercices culturels quotidiens, et la possibilité pour les détenus de quitter temporairement la prison sans que les prescriptions réglementaires fussent respectées, auraient permis aux mutins de fourbir leur attaque. Vous venez d'écouter un extrait de « Amoïté Utua, porter sa peine, la prison en Polynésie française » de Marie Salone et Jacques Vernaudon, avec la collaboration de Miros Paya, publié par les éditions Au Vent des Îles, lu par Mylène Ravino. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures du Pacifique et les rencontres hors série au pied du Banyan. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maururu et Yaorana.